Il est mort Jim, lu par l'auteur, épisode 72, chapitre 11. Francisco Borges était dans l'annuaire. Son nom était commun, mais mon ex-femme Roberta avait su, par le voisin de Lisangela, rue Benavides, dans quel quartier il fallait le chercher. Un homme, qui me répondit au téléphone, me dit que je pourrais le trouver au théâtre de l'Alliance française de Miraflores. Francisco était un homme d'une quarantaine d'années. Ses traits indiens, matinés d'une ascendance européenne, lui donnaient un charme et une certaine violence. Je l'invitai à boire un café à la cafétéria. Nous parlâmes de Lisangela sans détour. Il ne savait pas qu'elle était malade, il n'en avait jamais rien su. Je sentis qu'il était quelque part soulagé de comprendre la raison de son départ. Lisangela ne s'expliquait pas une telle intromission, et le bon sens lui donnait raison. Je cherchais des informations sans toujours me préoccuper des conséquences. Je ne dis pas que mes sentiments pour elle avaient largement autant dicté ma conduite que le réflexe du chercheur opiniâtre. De mauvaise foi, face à sa colère légitime, j'avais haussé le ton et fini par lâcher. « Tu te crois dans ce film, je ne sais plus comment il s'appelle, où le héros abandonne sa famille parce qu'il est malade, où tout le monde le prend pour un salaud, alors qu'il veut cacher qu'il va mourir ?» C'en était trop. Pour la seconde fois, Lisangela m'avait planté. Cette fois-ci sur mon banc, à la merci des skateurs maladroits. Elle avait raison. Quel besoin avais-je de la provoquer de cette façon? Me disais-je en regardant depuis mon canapé le gorriti échoué par terre. J'avais vérifié l'origine de ma référence intempestive en arrivant chez moi. Le film que j'avais jeté à la figure de Lisangela s'appelait « Deux jours à tuer ». Je l'avais vu en France 3 ou 4 ans plus tôt. Le personnage principal était Albert Dupontel. Malgré ma distance de la France, je suivais la carrière de cet homme que je trouvais à la fois bon acteur et metteur en scène de films impossibles. Le film jouait aussi sur la dualité. Le personnage faisait tout pour se faire détester dans la première partie, en usant de grossièreté, d'accusations violentes, de cynisme, et était auréolé comme un martyr lorsqu'on découvrait qu'il n'avait fait que protéger les siens de la douleur de sa disparition soudaine. Mieux valait aller vers des considérations plus terre-à-terre, dans tous les cas moins sentimentales. Le livre tibétain de la vie et de la mort mentionnait la science comme une alliée. Le lama Padma Samten avait lui aussi parlé de la physique quantique. On pouvait d'ailleurs se demander si la physique quantique l'avait mené au bouddhisme. Mon esprit littéraire s'accommodait mal des équations, théorèmes et règles scientifiques. Je dus me forcer à la concentration pour lire et visionner les articles et reportages que je trouvais sur Internet. Je pus établir assez rapidement que la physique quantique observait ce qu'il y avait derrière les objets. Ces objets qui nous paraissent concrets et solides, et qui sont tous constitués, comme la matière humaine d'ailleurs, de milliers de particules en mouvement. Ces choses dont la solidité est faite de vide. Une vidéo était intitulée « 10 minutes pour comprendre la physique quantique ». Cela me convenait tout à fait. Philippe Bobola, docteur en chimie physique et biologiste, expliquait que la physique quantique offrait des propriétés impossibles dans la vie quotidienne. La plus grande était l'entrelacement, la connectivité entre toutes les choses. Max Planck, découvreur de la théorie des quantas en 1900, disait que tout point du système se trouve à tout instant dans tout l'espace qui est mis à sa disposition. Poursuivant ma navigation sur Internet, je lus que cela signifiait qu'un objet n'était jamais vraiment au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. La question de l'entrelacement me fit penser au contact surnaturel des médiums et des morts, du spiritisme, mais aussi à ceux de la télépathie. Dans une autre vidéo, qui semblait semi-amateur, l'origine du monde était montrée comme un seul magma qui s'était séparé. Après ce qui ressemblait à un Big Bang, le vide s'était créé. Mais ce vide donnait simplement l'impression que les choses étaient séparées, alors qu'il n'en était rien. Mon absence d'intérêt, a priori, pour les sciences dures, ne m'empêchait pas de savoir que l'expression Big Bang était mal employée dans cette hypothèse hasardeuse. Il s'agissait plutôt d'une explosion. L'absence de localisation des objets, quant à elle, ne pouvait-elle pas être associée au déplacement vertigineux des esprits décrits dans les EMI? Mais les esprits n'étaient pas des choses. Bref, je voyais bien que je faisais le grand écart en essayant de mettre en relation les concepts de la physique quantique avec les approches de la mort, des EMI et les spiritualités. Et la physique quantique était bien difficile à saisir, même si elle devenait une façon désormais incontournable de comprendre le monde. D'ailleurs, les scientifiques des reportages visionnés le disaient. Même la nature physique des objets, bien que connue, était difficile à appréhender pour l'être humain. Comment imaginer, lorsqu'on regarde une table, des chaises et qu'on se cogne à un meuble, qu'ils sont en fait des électrons bouillonnant dans le vide ?